Témoignage de M. Hirai Norio, technicien chaudronnier japonais. J'ai travaillé pendant 20 ans dans les centrales nucléaires. Il y a toujours des polémiques sur les centrales nucléaires, où les personnes disent qu'ils sont pour ou contre, ou alors que c'est dangereux ou pas. Mais aujourd'hui, je veux simplement vous raconter ce qui se passe dans les centrales. Vous allez comprendre qu'il y a une grande différence entre la réalité et l'idée que vous en avez. Vous allez en même temps découvrir que les centrales nucléaires irradient tous les jours de plus en plus de personnes et sont à l'origine de discriminations. Vous allez certainement découvrir des choses que vous n'avez jamais entendues. S'il vous plaît, écoutez mes textes jusqu'au bout et réfléchissez par vous-même. Quand on parle des centrales nucléaires, beaucoup de gens parlent du plan de construction, mais personne ne parle des travaux effectués. Sans connaître le chantier, on ne peut pas savoir la réalité des centrales. J'ai fait ma formation de tuyauteur dans les ensembles industriels et les grandes usines chimiques. J'ai été embauché pour participer à la construction des centrales nucléaires à la fin de mes 20e années. Puis j'ai longtemps travaillé comme chef de chantier. Je connais presque tout sur les centrales nucléaires, plus qu'un simple employé ne pourra jamais savoir. L'année dernière, le 17 janvier 1995, il y a eu un grand tremblement de terre à Kobe. Et le peuple japonais a commencé à s'inquiéter si les tremblements de terre ne représentaient pas un danger pour les centrales nucléaires japonaises. Résisteront-elles vraiment contre les tremblements de terre? Ce n'est pas du tout sûr. Le gouvernement et les compagnies d'électricité soulignent que les centrales sont bien conçues et construites sur des sols bien stables. Mais c'est une perspective chimérique. Le lendemain du séisme, je me suis rendu à Kobe. Les nombreuses relations entre les dégâts à Kobe et la problématique des centrales nucléaires m'ont dérouté. Jusqu'à ce jour, qui avait imaginé que les rails de Shinkansen et les poteaux de l'autoroute pouvaient tomber? En général, nous imaginons que les constructions des centrales nucléaires, du Shinkansen ou des autoroutes, sont soumises à des contrôles rigoureux de l'administration. Mais à Kobe, nous avons découvert des coffrages laissés dans les poteaux en béton. Les armatures de l'autoroute avaient été mal soudées. Elles avaient été collées par le métal de la soudure, mais les bords de l'armature eux-mêmes n'avaient pas été fusionnés. Elles ont toutes été disloquées avec le séisme. Pourquoi une telle chose s'est-elle produite? Parce qu'on a accordé trop d'importance au plan, au bureau, mais on a négligé la surveillance sur le chantier. Si ce ne fut pas la cause directe, on peut dire que cette négligence a provoqué l'ampleur de la catastrophe. Comme pour les constructions de Kobe, il y a aussi trop d'erreurs humaines dans les centrales nucléaires. Par exemple, connecter des tuyaux en laissant des outils à l'intérieur. Il n'y a pas beaucoup d'ouvriers très compétents. Ils n'arrivent pas à suivre parfaitement un plan de construction bien conçu. Ce plan idéal part de l'idée que ce sont des ouvriers experts qui le réalisent. Mais nous ne sommes jamais posé la question sur la qualité des ouvriers et leurs conditions de travail. Pour les centrales nucléaires, comme pour les autres chantiers, la main-d'œuvre et même les inspecteurs sont constitués par des gens sans qualification. C'est compréhensible qu'un grave accident se produise dans les centrales nucléaires, les Shinkansen ou sur les autoroutes. La conception du plan des centrales nucléaires est bien faite. Il y a de nombreuses mesures de protection et de secours de risque. S'il y a quelque chose qui fonctionne mal, ça s'arrête comme il faut. Mais ce n'est qu'au niveau du plan. Les travaux de construction mal faits fragilisent ce plan. Par exemple, pour construire une maison, même si le plan est dessiné par un dessinateur de première qualité, si elle est construite par des charpentiers et des plâtriers qui ne sont pas compétents, on aura des fuites d'eau et des cloisons mal installées. Malheureusement, cette maison, ce sont les centrales nucléaires japonaises. Avant, il y avait toujours un contremaître qu'on appelait Bushin pour superviser les travaux. Il avait encore plus d'expérience que le chef de chantier, qui était moins âgé que lui. Le Bushin était fier de son travail et il considérait l'accident et la négligence comme une honte. Il savait bien sûr la dangerosité de l'accident. Depuis environ 10 ans, il n'y a plus de manœuvres compétents. On ne demande aucune expérience au moment du recrutement. Les ouvriers sans compétences ne savent pas le danger de l'accident. Ils ne savent même pas quels sont les travaux non réglementaires et mal faits. C'est la réalité des centrales nucléaires japonaises. Par exemple, à la centrale de Fukushima, de TEPCO, nous avons démarré la centrale en laissant un bout de fil de fer, et on a échappé de peu à un grave accident qui aurait eu des répercussions sur le monde entier. L'ouvrier savait qu'il avait fait tomber ce fil de fer, mais il ne savait pas à quel point la conséquence de son acte était dangereuse. Dans ce sens, une centrale nucléaire toute neuve construite par des gens incompétents est aussi bien dangereuse qu'une vieille centrale. Depuis qu'il n'y a plus beaucoup d'ouvriers compétents, on a standardisé la construction des centrales. Ça veut dire qu'ils ne regardent plus le plan, mais ils montent simplement des pièces préfabriquées en usine en assemblant la pièce numéro 1 avec la pièce numéro 2 comme dans un jeu de domino. Alors ils ne savent plus ce qu'ils sont en train de construire et à quel point ces travaux doivent être précis. C'est une des raisons pour lesquelles le nombre d'accidents et de pannes augmente dans les centrales nucléaires. Dans la centrale nucléaire, il y a aussi le problème de l'irradiation, qui empêche de former des successeurs. Quand on travaille dans la centrale nucléaire, il fait très sombre et très chaud. Et avec la protection, c'est impossible de parler. Alors, les ouvriers se communiquent par gestes. Comment peuvent-ils, dans ces conditions, transmettre leur savoir-faire ? En plus, on envoie d'abord les gens compétents travailler, et ils s'exposent très vite à la quantité de radioactivité annuelle autorisée. Ils ne peuvent plus travailler, ça accentue encore l'incompétence des ouvriers. Par exemple, pour les soudeurs, ils fatiguent leurs yeux en travaillant. Après 30 ans, ils ne peuvent plus faire de travaux précis, ils ne trouvent plus d'embauche dans la pétrochimie, et c'est comme ça qu'ils arrivent aux centrales nucléaires. Vous avez peut-être une fausse image comme quoi les centrales nucléaires sont quelque chose de très sophistiqué. Mais ce n'est pas une construction aussi sûre qu'on l'imagine. Je pense que vous avez bien compris pourquoi les centrales nucléaires sont construites par des gens incompétents et que ça ira de pire en pire. Mais vous pensez peut-être que les contrôles rigoureux évitent des problèmes, même si les ouvriers des chantiers ne sont pas compétents. Ces systèmes de contrôle sont encore plus problématiques. Pour les contrôles japonais, les inspecteurs viennent vérifier la construction déjà achevée. C'est la raison pour laquelle ça ne marche pas. Il faut venir regarder les travaux en cours, sur place. Les inspecteurs doivent être spécialistes de la soudure s'ils sont les inspecteurs pour la soudure. Et ils doivent être capables de montrer le travail correct aux manœuvres en disant « Non, il ne faut pas faire comme ça. Regardez comment je fais. S'ils ne savent pas faire comment faire les travaux, comment ils peuvent faire des contrôles corrects ?» En l'état actuel, ils auditionnent l'entreprise qui a commandé la construction et celle qui l'effectue. Ils leur demandent de fournir les papiers nécessaires. Et voilà, c'est le système de l'inspection. Il y a quelques années, on a eu souvent des accidents dans les centrales nucléaires. Alors le gouvernement a décidé d'envoyer des conseillers de sécurité spécialisés dans chaque centrale nucléaire pour donner l'autorisation de démarrage, après la construction ou de redémarrage, après les contrôles réguliers. Je savais que ces conseillers ne connaissaient pas grand-chose du nucléaire, mais je n'imaginais pas à quel point. Quand j'ai fait une conférence à Mito, il y a un homme du ministère de la Science et de la Technologie qui s'est présenté au public en disant « Je me sens tellement mal à l'aise de l'avouer, mais... je ne connais rien au nucléaire. » Il a continué. De peur d'être irradié, les inspecteurs n'ont pas voulu travailler dans les centrales en marche. Comme on vient de supprimer des places dans le ministère de l'Agriculture, avec le remaniement gouvernemental, ils ont envoyé des fonctionnaires dans les centrales nucléaires qui donnaient des conseils aux éleveurs de vers à soie, sans aucune formation. Voilà pourquoi les conseillers qui ne connaissent rien du tout donnent l'autorisation du démarrage dans toutes les centrales. Le conseiller de la centrale de Miyama, il contrôlait la qualité du riz, il y a encore 3 mois. Cet homme a raconté une telle histoire. Il a donné les noms de ses conseillers. Est-ce que vous pouvez avoir confiance en l'autorisation de démarrage accordée par tous ces gens qui n'y connaissent rien ? Quand il y a eu ce grave accident dans la centrale de Fukushima de TEPCO, qui a entraîné le démarrage du système de refroidissement de secours, le quotidien Yomiuri a publié un article. Le conseiller spécialisé n'a pas pu participer à l'équipe de la centrale. Effectivement, c'était le journal qui a appris à ce conseiller spécialisé la nouvelle de ce grave accident, mais le lendemain matin. Pourquoi le conseiller n'était-il au courant de rien ? Parce que tous les gens de Fukushima savaient qu'il ne connaissait rien du tout. Dans la pagaille totale, il n'avait pas le temps de lui expliquer de A jusqu'à Z, donc l'équipe ne lui a même pas demandé de venir sur place. Au-dessus de ces fonctionnaires et responsables du ministère, dans l'hiérarchie nucléaire, il y a encore le service de l'inspection nucléaire. Ce sont des gens du ministère du Commerce et de l'Industrie qui ont pris leur retraite et sont embauchés dans le service. Ils occupent des postes importants, mais ils n'ont jamais travaillé dans ce domaine. Et ils possèdent tous les pouvoirs sur l'inspection de la centrale nucléaire, et on ne peut rien faire sans leur autorisation, mais ils n'y connaissent rien. Ils viennent au contrôle, bien sûr, mais ils ne font que regarder. Malheureusement, ils ont quand même un pouvoir colossal. Encore au-dessus de la hiérarchie, il y a les compagnies d'électricité et les trois fabricants de réacteurs nucléaires qui suivent. Hitachi, Toshiba et Mitsubishi. Moi, j'ai travaillé chez Hitachi. Après les fabricants, il y a encore des sous-traitants de la construction dont j'ai parlé tout à l'heure. Ça veut dire qu'au-dessus des fabricants, ils ne sont pas compétents. Au-dessous des fabricants, non plus. Il n'y a pas beaucoup de gens compétents. C'est aussi pour cela que les compagnies d'électricité ne peuvent pas expliquer les détails au moment des accidents. Je disais toujours, avant et après ma retraite, qu'il faut que ce soit des organismes compétents et indépendants qui s'occupent de l'inspection, et non pas des entreprises nationalisées ou des services où les anciens fonctionnaires du ministère viennent travailler. Et indépendant de l'influence du ministère du Commerce et de l'Industrie, qui préconise, évidemment, l'installation de centrales nucléaires. Je revendiquais toujours des conseillers qui ont de l'expérience et des inspecteurs qui contrôlent et expliquent sur le chantier pour trouver des mauvaises soudures ou des travaux mal faits. Mais jusqu'à aujourd'hui, rien n'a changé. Voilà à quel point les centrales nucléaires japonaises sont administrées avec irresponsabilité et approximation. Après le grand séisme de Kobe, on a très vite vérifié le plan antisismique de toutes les centrales nucléaires du Japon. Le résultat absurde publié en septembre 1995 disait que toutes les centrales résisteront à tous les tremblements de terre, de n'importe quel niveau. Au moins pour celles dont je me suis occupé pour mon travail, les premières centrales nucléaires, on n'avait même pas prévu la possibilité d'un grand tremblement de terre. C'est aberrant de confondre les nouvelles et les vieilles centrales pour leur résistance contre les tremblements de terre en disant « de n'importe quel niveau ». En 1993, quand il y a eu le séisme de degré 4, la centrale numéro 1 d'Onagawa s'est arrêtée automatiquement, suite à l'augmentation subite de la puissance. C'était un accident très grave, parce que la centrale qui a été construite en 1984, pour s'arrêter à un degré de sismicité de niveau 5, s'est arrêtée avant d'atteindre ce niveau. C'est comme si le blocage du frein a arrêté la voiture subitement sur l'autoroute, mais sans appuyer sur le frein. Tohoku EPC ne reconnaît pas la gravité de la chose en disant « Tant mieux si ça s'est arrêté ». Mais l'affaire n'est pas si simple. Si l'arrêt s'est effectué au degré 4, bien qu'il ait été conçu pour que ça s'arrête au degré 5, on ne peut pas nier la possibilité que ça ne s'arrête pas au degré 5. C'est un signe qu'il y a des choses qui ne fonctionnent pas comme prévu. La centrale de Fukushima s'est arrêtée également d'une façon imprévisible au moment du séisme de 1987. Au Japon, il y a 10 centrales qui sont du même modèle. C'est vraiment terrifiant quand on pense aux dangers que les tremblements de terre présentent vis-à-vis des centrales nucléaires. On arrête à peu près tous les ans les réacteurs pour procéder à un contrôle régulier. Dans un réacteur nucléaire, la pression de l'eau chaude et de la vapeur monte de 70 à 150 atmosphères. Mais ce n'est pas une simple eau chaude, car la température monte jusqu'à 300 degrés. Elle circule très vite et use les tuyauteries. Au moment du contrôle régulier, on ne peut pas éviter la nécessité de changer des tuyaux et des soupapes, qui sont parfois usées jusqu'à mi-épaisseur. Mais l'irradiation accompagne inéluctablement ces procédures. Le démarrage du réacteur émet plein de radioactivité et de radiation. Les gens qui y travaillent subissent des radiations. Avant de se rendre auprès du réacteur, ils se déshabillent et se mettent en combinaison de protection. Peut-être vous imaginez que ces combinaisons protègent le corps de la radioactivité. Mais en réalité, ce n'est pas le cas. La preuve, on place le radiamètre, l'outil de mesure de la radioactivité, sous la combinaison, sur le gilet. La combinaison de protection, c'est un simple maintenant de travail qui sert à ne pas emporter de radioactivité à l'extérieur. Mais il ne protège pas les manœuvres de l'irradiation. Donc après le travail, les manœuvres doivent se mettre en slip pour vérifier s'ils ne sont pas contaminés. Si la radioactivité reste uniquement sur la peau, c'est ce qu'on appelle la contamination externe. On peut l'enlever presque entièrement avec la douche. Il se lave minutieusement jusqu'à ce qu'il ne soit plus radioactif avant de sortir de la zone. Les manœuvres mettent aussi des chaussures qui ont été préparées par l'entreprise, mais on n'est pas sûr de trouver la bonne taille. Alors leurs pas sont mal assurés. En plus, ils doivent mettre un masque qui couvre la tête. Ils travaillent avec des combinaisons et l'angoisse de la radioactivité. Pratiquement. Personne ne peut faire de bon travail avec cet équipement. C'est complètement différent d'un chantier normal. En plus de cela, plus de 95% des personnes qui s'occupent de ce travail n'ont aucune expérience. Ce sont des agriculteurs et des pêcheurs désœuvrés qui travaillent en dehors de la saison. Ces gens qui n'ont pas d'expérience travaillent sans savoir le danger que ça représente. Par exemple, vous serrez une cheville avec un écrou. On dit aux manœuvres, serrez-la en diagonale parce que sinon, ça fuit. L'opération se déroule dans une zone de radiation contrôlée. Un endroit très dangereux, plein de rayonnement. Les manœuvres amènent le radiamètre, mais comme la quantité de radiation varie d'une pièce à l'autre, la durée du temps acceptable en minutes change chaque fois. Avant de rentrer au chantier, on explique aux ouvriers le travail d'aujourd'hui et la durée de ce travail, décidée en fonction de la quantité autorisée journalière d'irradiation. S'ils vont travailler au chantier où on peut rester 20 minutes, on leur donne une minuterie qui sonne au bout de 20 minutes en disant « Vous devez sortir quand ça sonne ». Mais ils ne sont pas munis d'une montre parce qu'elle serait polluée par la radioactivité. Ils doivent donc deviner le temps restant. C'est comme ça qu'on les envoie au travail. Là-bas, ils n'arrivent pas à se concentrer pour serrer la cheville parce qu'ils se demandent toujours combien de temps est passé. Est-ce que c'est 10 minutes ou peut-être 15 minutes? Ils ont très peur de l'alarme, de la minuterie. Ça les fait plus que sursauter. Le bruit de cette alarme, il est assez fort pour rendre tout pâle. Quelqu'un qui ne l'a jamais entendu. Quand ça sonne, ils ont déjà reçu une irradiation équivalente à des dizaines de radiographies. C'est bien normal qu'ils ne puissent pas fournir des prestations assez correctes, comme tout simplement serrer des chevilles en diagonale. Pouvez-vous imaginer les conséquences ? Dans le bâtiment de la centrale, tout devient radioactif et émet des radiations. Parce que les radiations peuvent traverser même une paroi de fer d'une grande épaisseur. Les radioéléments qu'on reçoit sur la peau, la contamination externe, c'est horrible. Mais le pire, c'est la contamination interne. Par exemple, la poussière. Une simple poussière qui se trouve n'importe où devient radioactive dans une centrale nucléaire à cause de la radioactivité qu'elle reçoit. Le fait d'inspirer cette poussière radioactive par le nez ou la bouche, c'est de la contamination interne. En faisant le nettoyage dans la centrale, on est exposé le plus au danger de la contamination interne. Avec cette contamination interne, on reçoit les radiations de l'intérieur du corps. C'est beaucoup plus dangereux que les radiations externes, car le corps est en contact direct avec la source des radiations. Les radioéléments sont évacués du corps au bout d'environ 3 jours par la voie transpiratoire et urinaire. Mais pendant ces 3 jours, ils restent dans le corps. En plus, quand on parle d'élimination, c'est un langage humain. Il en reste toujours un peu et ça, c'est très dangereux. Même si ce sont des petites quantités à la fois, elles s'accumulent dans le corps. Vous devez le savoir, si vous avez déjà visité une centrale nucléaire, c'est très bien nettoyé. Surtout là où il y a des accès au public. Mais c'est bien normal. Ça serait dangereux qu'il y avait de la poussière radioactive dans l'air. Moi, j'ai développé un cancer. À cause de la contamination interne que j'ai reçue plus de 100 fois. Quand le docteur m'a diagnostiqué un cancer, j'avais très peur. Mais je me suis rappelé ce que ma mère disait toujours. Rien n'est plus grand que la mort. Ça m'a donné envie de faire quelque chose. Alors j'ai décidé de mettre au jour tout ce que je connaissais des centrales nucléaires. Les gens qui travaillent où il y a de la radioactivité s'appellent les ouvriers nucléaires. Au Japon, 270 000 personnes ont déjà travaillé comme ouvriers nucléaires, dont la plupart dans les centrales nucléaires. Ainsi, 90 000 personnes travaillent aujourd'hui. Tous ces gens assurent le fonctionnement des centrales nucléaires comme le contrôle régulier qui a lieu une fois par an, en subissant de la radioactivité. Avant de commencer à travailler dans les centrales nucléaires, on donne aux ouvriers 5 heures de cours de formation sur la sécurité face aux radiations. Le but de ces cours est tout d'abord d'atténuer leur angoisse. On ne leur dit jamais qu'il y a des dangers. L'État surveille L'État surveille la quantité de la radioactivité et donc il n'y a pas de danger. Les antinucléaires, ils parlent du risque de cancer et de la leucémie à cause de la radioactivité. Mais ce ne sont que des gros mensonges. Si on respecte bien les normes imposées par le gouvernement, il n'y a aucun problème. Un tel lavage de cerveau dure 5 heures. Les compagnies d'électricité procèdent à ce lavage de cerveau également avec les gens qui habitent à côté des centrales. Elles font venir les personnes connues pour faire des conférences, elles donnent des cours de cuisine, ou insèrent des encarts publicitaires imprimés en couleur dans les journaux. Peut-être les accidents dans les centrales angoissent leurs habitants. Mais grâce à toute cette propagande de l'Agence de sécurité nucléaire, ils ne peuvent pas penser autre chose que « nous ne pouvons pas nous passer du nucléaire pour avoir suffisamment d'électricité ». Moi-même, pendant presque 20 ans, en tant que responsable du terrain, j'ai procédé à ce lavage du cerveau. Vis-à-vis de tous les ouvriers, je ne sais pas combien de personnes j'ai tuées. Mais il y a des gens qui me demandent si les ouvriers ne sont pas inquiets. Mais comme ils ne sont pas avertis des dangers de la radioactivité ou de la contamination, la plupart ne sont pas inquiets. Ils ne pensent même pas que c'est à cause de leur travail, au moment où ils tombent malades. Tous les ouvriers sont irradiés quotidiennement. Le travail des responsables consiste à cacher cette réalité, à ceci et à l'extérieur de la centrale. Si les ouvriers ou même n'importe qui s'inquiètent du problème de l'irradiation, c'est que vous n'êtes pas digne d'être responsable sur place. Ainsi sont les conditions de travail dans les centrales nucléaires. J'ai exercé un tel travail longtemps. Il m'arrivait souvent que je ne pouvais plus le supporter sans aide de l'alcool et j'en buvais de plus en plus. Ainsi, je me posais souvent des questions. Pourquoi et pour qui il faut vivre des jours pleins de mensonges? Au bout de 20 ans, je me suis aperçu que mon corps lui-même était déjà gravement détruit par les radiations. J'ignore si vous ne le savez ou pas, ou peut-être vous n'êtes simplement pas intéressé, mais les centrales nucléaires japonaises ont déjà connu plusieurs accidents qui doivent faire peur à tout le monde. Ils pourraient être équivalents à ceux de Tchernobyl. Par exemple, en 1989, encore dans la centrale de Fukushima, la pompe de recyclage a volé en éclats. C'était un accident qui n'était jamais arrivé dans le monde jusqu'alors. Après l'accident de la centrale de Miyama, la compagnie d'électricité de Kansai en 1991, avec l'éclatement d'une canalisation, ça a été un accident très grave aussi. Il a rejeté une énorme quantité de radioactivité directement dans l'air et dans la mer. L'accident de Tchernobyl ne m'a pas beaucoup surpris. En construisant des centrales nucléaires, je savais qu'on ne peut pas éviter une telle catastrophe. Par hasard, c'est arrivé à Tchernobyl. Par hasard, ce n'est pas arrivé au Japon. C'est ce que j'ai pensé. Mais au moment de l'accident de Miyama, la peur a fait flageoler mes jambes et je ne pouvais pas me lever de ma chaise. On peut dire que cet accident a été très grave, car on a dû démarrer le système de refroidissement de secours à la main. Ce système de refroidissement, c'est le dernier rempart pour protéger la sécurité de la centrale nucléaire. Si ce système de sécurité ne marche pas, il ne reste plus rien à faire. Cet accident, où il a fallu utiliser le système de refroidissement de secours, c'est pour moi comme un autocar qui roule à 100 km par heure sur l'autoroute, avec 120 millions de personnes à bord, et dont le frein de service ne fonctionne pas, ni le frein à main. Et enfin, on a réussi à l'arrêter, mais en le précipitant contre un rocher. Au moment de l'accident, l'eau radioactive qui se trouvait dans le radioacteur s'est échappée avec la mer. Et on était quasiment avec le cœur à sec. Toutes les soupapes de sécurité, autrement dit les innombrables mesures de précaution dont le Japon était si fier, n'ont pas donné suffisamment d'effet. Et un autre Tchernobyl aurait pu se produire à 0,7 secondes près. Heureusement, un ouvrier expérimenté était là, bien que ce soit le samedi. Le système d'arrêt automatique n'ayant pas fonctionné, c'est lui qui a jugé la gravité de la situation et il a arrêté manuellement le réacteur. Ainsi, on a échappé de justesse à un grave accident qui aurait pu concerner... Mince, pardon. Qui aurait pu concerner le monde entier. On peut dire que tous les Japonais ou même tous les hommes du monde ont eu vraiment de la chance ce jour-là. La première centrale nucléaire commerciale au Japon a démarré en 1966, dans la commune de Tokaido, dans le département d'Ibaraki. C'était un réacteur anglais, d'une puissance de 160 MW. Depuis, des centrales américaines ont été installées et le Japon s'est même mis à construire ses propres centrales. Actuellement, 51 centrales nucléaires fonctionnent dans ce petit pays, le plus grand étant de 1350 MW. On les a mises en route, sans savoir concrètement comment les démonter, ni les démolir, ni comment traiter leurs déchets. Le réacteur en acier, bien que d'une grande épaisseur, se fragilise à cause des quantités colossales de radioactivité. On les avait donc construites pour une exploitation de 10 ans, après quoi le démantèlement et la démolition étaient prévus. Mais en 1981, on s'est aperçu que les plans de démantèlement et de démolition de la centrale nucléaire de Fukushima, qui avait alors fonctionné 10 ans, n'étaient pas du tout réalisables. Le Parlement a même discuté sur le fait que ce réacteur ne pouvait plus résister au rayonnement ionisant. À l'époque, j'ai participé aussi à la recherche de solutions. Nous avons tous les jours étudié différents modes de démolition. Mais nous avons seulement compris que pour démonter et démolir cette centrale nucléaire pleine de radioactivité, des dépenses représentant plusieurs fois le budget de sa construction seraient nécessaires et qu'une irradiation trop importante des ouvriers serait inévitable. Car on ne peut travailler que quelques dizaines de secondes près du réacteur si l'on veut respecter la norme. Tout est réalisable sur le papier. Mais concrètement, les ouvriers doivent tout faire à la main, avec l'irradiation que cela implique. On ne peut donc rien faire avec cette radioactivité, ni démonter, ni démolir la centrale. Certaines personnes parlent d'envoyer des robots, mais les nombreuses recherches n'ont pas encore réussi à produire des robots qui ne se dérèglent pas, à cause de la radioactivité. Finalement, concernant la centrale de Fukushima, on a conclu que la démolition était irréalisable. Le fabricant américain qui a vendu cette centrale a envoyé des ouvriers au Japon et il les a fait réparer le réacteur en les exposant à des quantités de radioactivité inimaginables par rapport à la norme japonaise. Et aujourd'hui, en 1995, cette centrale fonctionne toujours. J'espère que vous avez bien compris ce que c'est qu'une centrale nucléaire. Certainement, l'accident grave de Tchernobyl a aussi effrayé beaucoup de Japonais. Mais j'imagine que beaucoup de gens, surtout ceux qui habitent au loin dans les grandes villes, ont peur de manquer d'électricité si on ferme les centrales nucléaires. Mais c'est le résultat des propagandes qu'ils font en dépensant beaucoup d'argent. Les centrales nucléaires, c'est une utilisation pacifique de l'énergie atomique. Vous n'avez pas besoin d'avoir peur. Les accidents n'arriveront jamais dans les centrales nucléaires japonaises. Le Japon manque de sources d'énergie. Les centrales nucléaires nous sont indispensables. Ce sont des propagandes du gouvernement et des compagnies d'électricité. Et la réalité, les accidents, ils essaieront toujours de le cacher. C'est bien vrai que les centrales nucléaires produisent de l'électricité. Mais j'ai constaté en travaillant 20 ans, avec mes yeux, et même avec mon corps, qu'elles fonctionnent toujours en irradiant les ouvriers. Et puis les gens qui habitent à côté souffrent, en se débattant d'abord entre ceux qui sont pour et contre, et ensuite en étant irradiés et discriminés. Vous ne devez pas croire qu'un accident dans une centrale nucléaire ne provoque pas de terribles conséquences, ni croire qu'il n'y a pas de problème si l'accident n'arrive jamais, que c'est une utilisation pacifique. Tout cela n'est pas vrai. Ce n'est pas pacifique s'il y a des ouvriers qui meurent à cause de l'irradiation, comme moi. Et des gens qui souffrent à cause des centrales. En plus, il ne faut pas confondre la sûreté et la sécurité. S'il y a des centrales nucléaires, il n'y a plus rien de sûr. En plus, même si le nucléaire produit de l'électricité en ce moment, l'entretien des déchets nucléaires pour des dizaines de milliers d'années demandera une énorme quantité d'électricité et de pétrole. C'est sûr que ça demandera plus d'énergie qu'on en a produit tout de suite grâce au nucléaire. D'ailleurs, ce sont nos descendants qui seront obligés d'entretenir toutes les centrales fermées et leurs déchets. Pour toutes ces raisons, je vous demande de regarder le visage de vos enfants et de vos petits-enfants tous les matins et de réfléchir si le Japon peut continuer à construire des centrales nucléaires. Ce n'est pas uniquement le risque de l'accident, il y a aussi le risque de tremblement de terre. Un désastre irrémédiable va arriver si on continue ainsi. Je veux juste que vous chassiez. Je veux juste que vous sachiez cette réalité. Je manifeste pour ne plus construire deux centrales nucléaires. Je suis contre les nouvelles installations de centrales nucléaires avec conviction. Et je pense qu'il faut arrêter celles qui sont en fonctionnement. Tant que les centrales nucléaires existeront, la tranquillité n'existera pas sur cette terre.